VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manila Kidza à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 3 octobre 2023. Médiation algérienne au Niger. Niamey rappelle que la durée de la transition sera fixée par un forum national, tandis que 29 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans l'ouest du Niger. Au Mali, l'armée fait mouvement vers la région stratégique de Kidal. Le gynécologue Denis Mukwege annonce sa candidature pour la présidentielle de décembre en RDC. En Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, au pouvoir depuis 2013, brigue sans surprise un troisième mandat. Un élu proche de Donald Trump dépose une motion pour destituer le chef républicain de la Chambre des représentants. Le fils de Joe Biden devant un juge pour détention illégale d'armes. Haïti, feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU à une force internationale menée par le Kenya. Et les ministres européens promettent un soutien durable lors d'une rencontre historique à Kiev. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le régime militaire au pouvoir au Niger a rappelé hier soir que la durée de la transition serait uniquement fixée par un forum national inclusif, quelques heures après une annonce de l'Algérie indiquant que Niamey avait donné son feu vert à une offre de médiation en vue d'une solution politique à la crise après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Rosine Mounezel.
Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a chargé le chef de la diplomatie Ahmed Attaf de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour entamer des discussions avec toutes les parties, selon la même source. Alger a estimé lundi que l'acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise. Le régime militaire à Niamey n'avait pas encore réagi. Alger a proposé fin août des discussions politiques pendant 6 mois au maximum sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle. Le 19 août, le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger, a indiqué vouloir une transition de 3 ans maximum, mais samedi soir, il a affirmé que le régime n'avait pas le droit de passer 5 ans au pouvoir.
Signalons qu'un communiqué du ministère des Affaires étrangères rappelle que la durée de la transition sera déterminée par les conclusions d'un forum national inclusif. Toujours au Niger, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du pays, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le ministère de la Défense, qui précise que plusieurs dizaines de terroristes ont été tués. Il s'agit du plus lourd bilan depuis l'arrivée au pouvoir des militaires qui avaient justifié leur coup d'État du 26 juillet, notamment par la dégradation de la situation sécuritaire. L'attaque a eu lieu près de la frontière du Mali lors d'opérations visant à neutraliser la menace que constitue l'État islamique au Grand Sahara, fortement implanté dans la zone. Un important convoi de l'armée malienne a quitté lundi Gao en direction de la région stratégique de Kidal dans le nord, bastion de la rébellion séparatiste et Touareg, qui a repris les armes contre l'État central, ont indiqué des responsables sécuritaires. Ces mouvements de troupes ont déclenché des spéculations sur le début de l'offensive réclamée de longue date pour reprendre le contrôle de Kidal. Aucun responsable malien n'a officiellement désigné la ville de Kidal comme l'objectif direct du déploiement commencé lundi, mais le chef des services d'information de l'armée a déclaré qu'à terme, Kidal, gouverné depuis des années par la CMA, devait repasser sous le contrôle de l'État. L'armée malienne sera partout où la MINUSMA était, a-t-il dit. Dans l'est de la RDC, un officier a été condamné à mort hier lundi, 3 autres militaires à 10 ans de prison et 2 acquittés par la justice militaire qui les jugeait pour la répression d'une manifestation qui a fait plus de 50 morts le 30 août à Goma. Toujours en RDC, le gynécologue Denis Mukwege a annoncé sa candidature pour la présidentielle de décembre en RDC. C'était au lendemain de l'annonce de celle de Félix Tshisekedi qui veut briguer un autre mandat pour sa succession. Et Martin Fayoulou, un opposant, a également annoncé sa candidature. Au Nigeria, les syndicats ont accepté hier lundi d'annuler une grève prévu pour protester contre la hausse du coût de la vie après que le gouvernement a présenté des mesures visant à atténuer l'impact des réformes économiques. Jean-Roger Bion.
À l'issue des pourparlers avec les syndicats, le gouvernement nigérian a proposé un train de mesures, dont une augmentation de salaire de $45 par mois pendant 6 mois pour les employés fédéraux. Le gouvernement va également accélérer l'introduction de bus au gaz pour les transports publics, ce qui pourrait en réduire les prix, suspendre temporairement la taxe sur la valeur ajoutée pour le diesel et distribuer des allocations aux Nigérians les plus pauvres. Le président Bola Ahmed Tinubu s'efforce de relancer l'économie et d'attirer davantage d'investissements. Élu en février, M. Tinubu a supprimé la subvention sur le carburant pour mettre fin à une mesure coûteuse pour l'État. Il a aussi libéralisé le Naira, la monnaie locale, un ensemble de mesures jugées douloureuses mais nécessaires. Cependant, ces mesures ont triplé le prix des carburants, portant l'inflation à 25%. M. Tinubu a appelé les Nigériens à faire preuve de patience à l'égard de ces réformes destinées à favoriser la croissance économique. Les investisseurs ont généralement applaudi ces réformes.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé hier lundi sa candidature à un troisième mandat avant les élections de décembre qu'il devrait largement remporter. Jacques Aristide.
Comme j'ai déjà répondu à l'appel du peuple, je réponds maintenant à cet appel et j'annonce mon intention de me présenter et d'achever le rêve d'un nouveau mandat présidentiel, a déclaré M. Abdel Fattah al-Sissi, âgé de 68 ans, à une foule en liesse dans la nouvelle capitale égyptienne, fleuron d'un méga-projet réalisé dans le désert à l'est du Caire. La télévision d'État a montré des milliers de personnes célébrant l'annonce sur des scènes prêtes à l'emploi à travers le pays. Plus tôt dans la journée de lundi, des rassemblements ont eu lieu au Caire pour demander à M. Sissi de déclarer sa candidature. M. Sissi a exhorté les Égyptiens à se rendre aux urnes du 10 au 12 décembre, même si ce n'est pas pour voter pour moi, dit-il. Le président, dont les forces de sécurité ont été accusées de harceler et d'arrêter des opposants, a applaudi les autres candidats et a salué un véritable début de vie politique dynamique et pluraliste. Il a également prévenu les 105 millions d'Égyptiens qui subissent une inflation à 40% et une dévaluation de 50% qu'il faudra encore faire des sacrifices.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Matt Gaetz, un élu de la droite dure américaine, a déposé hier lundi une motion pour destituer Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants. L'initiative survient après 2 désaccords majeurs. Le point avec Lionel Gahima.
Cette démarche rare découle de l'adoption d'un budget provisoire contesté par de nombreux conservateurs au Congrès. Matt Gaetz, un proche de Donald Trump, accuse McCarthy d'avoir conclu un accord secret avec Joe Biden concernant une aide à l'Ukraine, ce qui irrite l'aile droite du Parti républicain. Cette faction détient un certain pouvoir en raison de la mince majorité républicaine à la Chambre. McCarthy avait dû faire des concessions pour accéder au perchoir, y compris la possibilité de convoquer un vote pour destitution par un élu. Les conservateurs s'opposent à l'aide en faveur de l'Ukraine, préférant les consacrer à la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le parti républicain étant donc divisé, McCarthy devra éventuellement compter sur les voix des démocrates pour rester en poste, ce qui suscite des débats au sein du parti de Biden sur son sort. Une majorité à la Chambre sera nécessaire pour adopter la motion.
Donald Trump accusé avec 2 de ses fils d'avoir surévalué dans les années 2010 leur patrimoine immobilier a assisté hier à l'ouverture à New York à son procès civil pour fraude. Michel Joseph.
Donald Trump et ses deux avocats, Chris Kesey et Alina Habba, étaient en face du juge new-yorkais Arthur Engoron, qui va présider les débats pendant des semaines. Juste avant d'entrer dans la salle, M. Trump a accusé devant une forêt de caméras la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, la plaignante qui lui réclame 250 millions de dollars, d'être raciste. Il a qualifié ce procès au civil d'anarque et de simulacre. La première magistrate de l'État de New York, Letitia James, une élue africaine-américaine du Parti démocrate et qui est l'équivalent de ministre local de la justice, a assuré peu avant le début du procès que la justice allait prévaloir. Et elle a accusé le magistrat de l'immobilier de fraude répétée et d'avoir triché pendant des années. Monsieur Trump a toujours balayé ces accusations et a fait valoir que les banques prêteuses ont été remboursées totalement avec les intérêts, sans défaillance et sans victime.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute Éco avec Nanit Talani.
Le FMI a approuvé un accord de 302 millions de dollars sur 48 mois au titre de la facilité élargie de crédit pour le Burkina Faso. Ces fonds donneront à Ouagadougou une marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses prioritaires, à combler les déficits de financement, à renforcer la résistance au choc tout en réduisant la pauvreté et à soutenir la discipline budgétaire, la transparence et la gouvernance. La Banque africaine de développement organise le 5e Forum pour la résilience en Afrique du 3 au 5 octobre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette rencontre se penchera sur des solutions innovantes pour combler les déficits de financement des pays africains en proie au conflit et à une insécurité grandissante. Pour terminer, l'Algérie prévoit une production annuelle d'un million de tonnes de l'hydrogène vert en 2040 destinée à l'export vers le marché européen et 250 000 tonnes pour la consommation interne, a déclaré Rabba Selami, directeur au commissariat des énergies renouvelables.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Nigeria rappelle Alex Iwobi et Terem Mofi pour ses prochains matchs amicaux.
Oui, le Nigeria a rappelé le milieu de terrain de Fulham Alex Iwobi et l'attaquant de Nice Terem Mofi pour les matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite et le Mozambique prévus au Portugal. Les défenseurs Kenef Umeruo et Brian Osayi Samuel qui évoluent en Turquie font aussi leur retour en sélection pour les matchs des 13 et 16 octobre à Portimao. Le milieu de terrain Fissao Dele Bashiru qui joue en Turquie avec Antalyaspor a été appelé pour la première fois par le sélectionneur José Pesero. Ces deux matchs ont été organisés pour permettre aux Super Eagles de s'entraîner avant le début de la campagne de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 en novembre. Les triples champions d'Afrique accueilleront le Lesotho à Uyo le 17 novembre avant de se rendre au Zimbabwe 4 jours plus tard.
Parlant du Nigeria, Yakuba, après la polémique TikTok, Victor Osimhen clame son amour pour Naples.
L'attaquant nigérien défend son club et les Napolitains accusés de racisme, surtout au Nigeria après la publication d'une vidéo se moquant de lui sur le compte TikTok du Napoli. Rejoindre Naples en 2020 a été une merveilleuse décision. Le peuple napolitain m'a témoigné tant d'amour et de gentillesse. Je ne permettrai pas que quelqu'un s'immisce entre eux et moi, a écrit Victor Osimhen dans un communiqué. Il dit remercier les Nigériens et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien. Victor Osimhen s'est retrouvé en début de semaine dernière au cœur d'une polémique lorsque son club a publié une vidéo sur son compte TikTok se moquant de lui. La publication du Napoli, depuis effacée, montrait la tentative de pénalty ratée par le Nigérian contre Bologne.
Avant de nous quitter, parlons des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions. C'est ce soir en Europe, Yakuba.
Carlo Ancelotti du Real Madrid retrouve son ancien club du Napoli pour le choc de ce mardi. L'Union Berlin et Braga vont essayer de marquer leur premier point après leur défaite d'entrée. Et après avoir essuyé 3 défaites en 4 matchs, Manchester United, 10e de Premier League, à l'occasion de relancer sa saison à Old Trafford contre les Turcs de Galatasaray. Le Bayern Munich, fort de l'intégration réussie de Harry Kane, qui a déjà empilé 9 buts en 7 matchs, se déplace à Copenhague. face au FC Lens, Arsenal espère confirmer son retour en Ligue des Champions après sa victoire lors de la première journée 4-0 contre le PSV Eindhoven qui reçoit le FC Séville.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacoub.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Eric Mandakidza, place au dossier du jour. Reporters sans frontières demande aux autorités du Niger la libération sans délai de la journaliste Samira Sabou, interpellée chez elle à Niamey le 30 septembre, selon RSF. Sa famille reste sans nouvelles. RSF demande aux autorités de révéler son lieu de détention et de permettre à son avocat de la rencontrer. Les raisons de son arrestation restent inconnues. Samira Sabou avait précédemment été écrouée en juin 2020 pour diffamation liée à des publications sur des surfacturations d'achat d'équipements militaires, mais avait été relaxée. Yacouba Ouedraogo a joint à Niamey Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative et Espace Citoyen.
On ne sait pas vraiment pourquoi elle a été interpellée et détenue dans un lieu qu'on ne connaît pas. Parce que bon, il aurait fallu avoir accès à elle, soit directement les membres des organisations ou par le biais de son avocat, pour savoir même en fait pourquoi elle a été interpellée. Bon, on pense simplement que ça ne peut être lié qu'à son travail de journaliste et de blogueuse. C'est probablement ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a bien pu dire, écrire, faire pour mériter d'être interpellée et détenue pratiquement au secret, sans possibilité d'accès à un avocat ou même sans inviter membre de sa famille. On voit ce qu'elle publie et même en revisitant, on ne trouve pas vraiment matière à ce qu'une personne soit interpellée et gardée dans ces conditions-là.
Est-ce qu'on sait qui l'a interpellé?
Selon en tout cas les témoignages, ce sont des personnes en civil, probablement donc des éléments d'un quelconque service. J'espère bien que ce n'est pas des kidams du quartier, quoi.
Samira Sabou avait été écrouée en juin 2020, jugée pour diffamation suite à des publications concernant une affaire de surfacturation d'achat d'équipements militaires avant d'être relaxée. Est-ce qu'il faut faire un lien?
Je ne sais pas s'il faut faire un lien. Bon, à l'époque, elle a été interpellée. On sait qui l'a interpellée. C'est vraiment, elle était à la PJ. Bon, là, maintenant, on ne sait pas exactement c'est quel service, si c'est un service. Je pense que l'autre histoire, c'est une histoire passée. Je ne pense pas que ça, pour la même histoire qu'on puisse l'interpeller aujourd'hui. Et même si c'est le cas, elle devrait être dans un endroit où elle peut avoir de la visite, elle peut avoir son avocat.
Est-ce que la liberté d'expression est menacée au Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier?
Franchement, on peut dire que oui, parce que quand même, il y a d'autres personnes qui ont été interpellées pour des opinions. On sait également qu'elle-même, elle a été vraiment victime de lynchage sur les réseaux sociaux. Elle a été attaquée, vilipendée, accusée de toutes sortes de choses. C'est pas l'État en tant que tel, mais même en fait des personnes menacent la liberté d'expression d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a une telle intolérance, il y a parfois des cabales qui se mettent en place contre des personnes. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de nouveau.
Elle a été prise à partie par qui et pourquoi? Est-ce qu'elle a publié sur les réseaux sociaux?
Non, pas des internautes qui l'attaquent, qui la traitent de tous les noms d'oiseaux à cause de ses publications, surtout aussi parce qu'elle essaye d'avoir un certain équilibre. Elle publie des informations de sources diverses. Elle ne publie pas que des informations que les gens veulent voir. Elle peut publier aussi des informations venant d'autres sources. Je pense que même ça, ce n'était pas tellement accepté. Des gens qui disent, oui, elle n'est pas patriote, elle travaille pour des forces ennemies.
Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative et Espace Citoyen.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les suites de la bataille budgétaire au Congrès américain après l'adoption d'une rallonge de 45 jours qui a permis d'éviter in extremis une fermeture du gouvernement. L'aile dure du parti républicain continue de réclamer des coupes sombres mettant en péril l'aide militaire à l'Ukraine, ce que l'administration Biden rejette. En attendant, les élus se préparent au prochain bras de fer en pleine saison des primaires et à un peu plus d'un an de la présidentielle. Que signifie la bataille budgétaire pour les politiques intérieures et extérieures des États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Au Togo, un programme de volontariat national offre une opportunité de formation et d'insertion professionnelle aux jeunes hommes et femmes déscolarisés ou ayant un niveau de scolarité limité. Ces individus âgés de 18 à 35 ans s'engagent à travailler auprès des collectivités locales pendant 6 mois. Leur mission consiste à accomplir des travaux d'intérêt public dans les communes du pays. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Reconnaissables par leur gilet jaune, une vingtaine de jeunes hommes et femmes viennent de mettre au propre une partie du trottoir de la route internationale Lomé, frontière du Bénin, dans la commune Lac 3. Ce sont les volontaires d'engagement citoyen mis à disposition par l'Agence nationale de volontariat du Togo pour des travaux communautaires. Richard Kofi Tona, le secrétaire général de la mairie, apprécie le travail de ces volontaires.
Ces volontaires-là sont d'une aide inestimable pour la commune parce qu'ils contribuent à rendre l'environnement propre. D'abord au niveau de la mairie ici, au niveau de la ville, à dégager les ordures, à créer des espaces verts, à aider même au reboisement. Leur apport aide beaucoup à régler les problèmes de salubrité dans la ville.
Pendant la durée de leur engagement citoyen, ces volontaires reçoivent des formations en tout genre pour leur insertion professionnelle. Miwanuko Amé témoigne. On a été formés à la fabrication de savon liquide, la confection des sacs à base de raffia, l'élevage de poulets et des chèvres, le maraîchage aussi. Cela va nous aider à nous prendre en charge afin d'aider nos familles après les 6 mois de service de volontariat. Pendant les 6 mois d'engagement citoyen, ces volontaires perçoivent une allocation de 30 000 francs CFA. Damadjo Douamekpo souhaiterait que le montant soit révisé à la hausse.
C'est vrai que c'est nous-mêmes qui avions choisi de nous engager comme volontaires. L'État nous donne l'allocation mensuelle qu'elle a prévue, mais c'est insuffisant. Le déplacement pour nous rendre à la mairie nous coûte un peu cher. À la fin du mois, il ne nous reste pas grand-chose. Il faut qu'on augmente un peu l'allocation.
En plus de ces volontaires, l'Agence nationale de volontariat met en place des programmes pour les volontaires internationaux, les volontaires seniors et les volontaires nationaux de compétences. Ces derniers participent à l'atteinte des objectifs nationaux au niveau sectoriel, comme la santé et l'éducation. Ganiou Agouda, responsable planification, suivi et évaluation à l'ANVT.
Au niveau de la santé, les volontaires ont contribué à la réalisation des indicateurs inscrits dans les stratégies de promotion de la santé au Togo. Et au niveau de l'éducation, l'intervention des volontaires a permis de diminuer le ratio nombre d'élèves par enseignant et également d'améliorer les résultats des élèves au secondaire 1 et au secondaire 2.
Les deux secteurs seront de nouveau renforcés par 650 diplômés sans emploi qui viennent de s'engager récemment. Selon l'Agence nationale de volontariat du Togo, ce sont plus de 65 000 jeunes Togolais qui ont participé au programme depuis son lancement officiel en 2011. Kossi Wosu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis, a accueilli le week-end dernier le Festival des cultures mondiales. Pendant 2 jours, la ville s'est transformée en un véritable melting pot où des personnes de tous âges et de toutes origines se sont rassemblées pour célébrer la diversité culturelle et la paix. Des spectacles de danse et de musique, des expositions, des stands de livres et de gastronomie et des artistes et des ateliers de découverte ont permis aux visiteurs de découvrir différentes cultures. Voici les notes de reportage de Nani Tetalani.
L'atmosphère au Festival mondial des cultures était une véritable célébration de la diversité culturelle et de la paix sur le National Mall. L'un des moments les plus marquants a été le chant « We are one ». Nous sommes un, que les spectateurs ont chanté en harmonie avec des bougies allumées pour symboliser la paix et l'unité dans un monde de plus en plus divisé. Sandrine Irankunda, d'origine rwandaise et doctorante en études africaines à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, estime que la compréhension culturelle est essentielle pour la paix dans le monde.
Maintenant, nous vivons dans un monde qui est très divisé et ça cause beaucoup de conflits et de guerres et de sufferings. Mais donc, je pense que c'est très important qu'on vienne ensemble, qu'on voit qu'on est tous humains et on peut construire un monde d'unité et de paix.
Ce festival vise la promotion de la paix et la compréhension entre les différentes cultures. Il rappelle que les humains ont plus de choses en commun que de différences. C'est une puissante exhortation à l'importance de la compréhension entre les peuples. Pour le prince Yemi Oye, de l'État d'Oyo au Nigeria, de tels événements peuvent aider à briser les barrières.
Rassembler les cultures contribue à promouvoir l'unité entre les peuples du monde et exposer la beauté de chaque pays. Cela favorise l'amitié.
Yemi Oye souligne également les avantages économiques qui peuvent découler du brassage des cultures.
Quelqu'un m'a dit qu'il voulait acheter ses perles, dont le festival offre un avantage économique. Les gens s'intéressent à votre culture comme ma tenue vestimentaire. J'ai rencontré des gens qui aiment ma façon de m'habiller. Ils veulent s'habiller comme moi. Maintenant, ils vont commander ces habits dans mon pays. Cela rapportera donc de l'argent à mon pays.
Des ateliers, des expositions et d'autres activités éducatives, tant pour les enfants que l'organisation à but non lucratif, fondée par l'Indien Gurudev Srisri Ravi Shankar. La fondation est active dans une centaine de pays et compte plus de 10 millions de bénévoles.
Toujours ici aux États-Unis, bien que la paralysie de l'administration américaine ait été évitée, une nouvelle semaine agitée s'annonce au Congrès. Le récit est de Jacques Aristide.
Le projet de loi de financement à court terme que le Congrès des États-Unis a adopté samedi et qui a été signé par le président Joe Biden permettra au gouvernement américain de continuer à opérer au moins jusqu'à la mi-novembre. Mais le locataire de la Maison-Blanche a mis en garde dimanche contre une répétition du processus chaotique qui a précédé l'adoption à la dernière minute du texte provisoire.
La politique de l'accord de retrait doit cesser et il ne devrait pas y avoir de nouvelle crise. Il n'y a aucune excuse pour une nouvelle crise. Par conséquent, je demande instamment à mes amis républicains du Congrès de ne pas attendre. Ne perdez pas le temps comme vous l'avez fait tout l'été. Adoptez l'accord budgétaire annuel. Honorez l'accord que nous avons conclu il y a quelques mois.
Mais une nouvelle confrontation pourrait se profiler à l'horizon au Capitole. Les conservateurs d'extrême droite ne sont pas contents que Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, ait tendu la main aux démocrates pour qu'ils adoptent le projet de loi de financement temporaire. Le destituer est désormais la priorité absolue pour l'élu républicain Matt Gaetz.
En janvier, pour obtenir le poste de président de la Chambre, Kevin a dû accepter certains garde-fous en matière de dépenses. Les législateurs américains votent pour ou contre le financement de l'ensemble du gouvernement. C'est fou. C'est la raison pour laquelle nous avons une dette de 33 000 milliards de dollars. Nous souhaitons passer à des projets de loi de dépenses uniques. Il a pris cet engagement, il l'a rompu.
La réplique de Kevin McCarthy a été tout aussi vigoureuse lors de l'émission Face the Nation de CBS.
Qu'il en soit ainsi, allez-y, finissons-en et commençons à gouverner. S'il est contrarié parce qu'il a essayé de nous pousser à la paralysie et que je me suis assuré que le gouvernement continue de fonctionner, alors menons ce combat.
En attendant le dénouement de cette confrontation, les compromis entre républicains et démocrates vont se poursuivre, d'après Rachel Snyderman du Bipartisan Policy Center.
Il existe un compromis bipartisan en faveur d'un financement supplémentaire pour l'Ukraine. Aussi pour soutenir nos troupes et garantir la sécurité de nos frontières. Et donc je pense que nous allons voir des actions par rapport à ces priorités particulières dans les semaines à venir.
L'Ukraine et le reste de la planète vont suivre la situation de près, selon le politologue Oscar Pocasangre.
Je pense qu'à plus long terme, nous devons nous concentrer davantage sur une réforme structurelle des institutions et trouver des moyens d'avoir plus de partis politiques au Congrès, ce qui nous aidera à parvenir à davantage de consensus au sein de corps législatifs, au lieu de simplement avoir des allers-retours entre ces deux partis très divisés.
Oscar Pocasangre est également d'avis que davantage d'instabilité politique pourrait nuire à la crédibilité des États-Unis ainsi qu'à leur situation économique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza avec vous au micro à la mise en onde de Lionel Runanilagahima. Et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée plutôt à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.